11, à partir du verset 25, Épître de Paul aux Romains, chapitre 11, verset 25. Épître de Paul aux Romains, chapitre 11, verset 25. Voilà, Paul écrit ceci, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a reçu, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà, Paul ici parle à cette église des Romains, au milieu de laquelle il connaît finalement assez peu de chrétiens, mais dont il sait qu'elle est composée de ses frères et sœurs en Christ. Et Paul, dans ses chapitres, notamment dans le chapitre 11, parle de sa mission auprès du peuple d'Israël, et il déplore le fait que finalement assez peu de juifs, de manière relative, reçoivent le témoignage de l'Évangile. Certains même s'opposaient vigoureusement à lui. Et Paul, n'est-ce pas, exprime sa tristesse, la prière qu'il fait monter continuellement à Dieu pour eux. Mais Paul également va parler ici de cette réalité qu'il a saisie, qui lui a été révélée, le fait que à travers ces choses, eh bien, Dieu demeure souverain, et que même à travers la désobéissance d'Israël, le fait que peu recevaient le message de l'Évangile, bien Dieu s'était servi de cette circonstance pour que l'Évangile soit annoncé aux païens. Et Paul, qui était un homme de Dieu remarquable, prêchait l'Évangile aux Juifs, il commençait d'ailleurs par les synagogues, mais prêchait également aux païens, croyant que l'Évangile était pour tous les hommes. Allez par tout le monde et faites de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ce que nous pourrions retenir de ce que Paul écrit ici, eh bien c'est le fait que Paul confesse avoir une pleine assurance dans le fait de la souveraineté de Dieu et de sa providence. Voilà, il dit toutes ces choses, eh bien c'est Dieu qui, d'une certaine manière, les a conduites, et même la désobéissance là, d'une partie d'Israël, Dieu le permet, Dieu l'a même suscité, pour que son plan glorieux s'accomplisse, et viendra un jour où la totalité d'Israël, d'ailleurs, sera visitée par l'Esprit, se tourneront vers Dieu, reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et eux aussi auront part en Christ au salut. Car le salut se trouve pour tous les hommes, exclusivement dans la personne de Jésus-Christ. Paul écrit, « Profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. » Et ça, c'est une pensée finalement qui nous fortifie dans nos luttes et nos combats, que de savoir et d'être conscient que Dieu demeure souverain sur toutes choses. Et ce matin, je vous propose qu'on partage cette pensée dans trois domaines. Dieu est souverain, sa volonté s'accomplit, bien dans le domaine de l'histoire du monde, et puis bien sûr dans le parcours de l'Église, puis aussi dans nos vies. Voilà, Dieu est souverain sur tous les événements du monde, il contrôle tout ce qui se passe, toute l'histoire du monde en quelque sorte. Alors, Bien sûr, Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Il y a des versets de la Bible qui très clairement nous amènent à garder bien présent à l'esprit cette réalité. Dieu ne tente lui-même personne. Il ne peut lui-même être tenté par le mal, écrira par exemple Jacques. Puis Jean nous rappelle que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. À aucun moment, Dieu ne pourrait avoir commerce de quelque manière que ce soit avec le mal. Mais pourtant, c'est quelque chose qui nous dépasse. Même à travers les mauvaises actions des hommes, même à travers le mal qui peut se commettre sur la terre, Dieu, dans sa souveraineté, poursuit son plan et veillera à ce qu'il s'accomplisse coûte que coûte. Ça peut sembler curieux, ça. Même malgré, on le répète, le mal que les hommes peuvent commettre, bien Dieu, même à travers les mauvaises actions des hommes, bien peut accomplir son plan. Par exemple, il nous a dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été livré, lorsque le Maître a été livré pour être crucifié, bien entendu, Dieu n'avait aucune communion avec le mal qui se commettait, mais le Seigneur Jésus a été livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu. Voilà, il ne faisait ce qui l'enlivrait qu'accomplir ce que le dessein de Dieu, ce que sa volonté avait prévu, ce que son conseil avait prévu d'avance. Alors quand Dieu, par exemple, a formé Adam et Ève et a donné, là, dans le jardin d'Éden, ce commandement, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, simplement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donnait à l'homme ainsi la possibilité de manifester sa liberté, son libre arbitre, son choix, et que bien, Adam a délibérément choisi de transgresser l'ordre de Dieu. Voilà quelles conséquences on aurait pu dire. Bientôt, le plan de Dieu là, est compromis, le plan de Dieu est anéanti. Mais non, le plan de Dieu n'a pas été anéanti. D'ailleurs, quelques temps après la chute, quand Dieu cherche Adam, où es-tu ? Ben, il va révéler à Adam et Ève que son plan de rédemption s'accomplira, que Dieu a formé un plan qui impliquerait la venue de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui anéantirait l'œuvre du diable, le serpent ancien. Et ça nous étonne, mais Pierre, quand il parlera de la venue de Jésus, l'agneau de Dieu, dira « il est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde ». Et à travers même la chute de l'homme, bien, le plan de Dieu va s'accomplir, la venue de Jésus va pouvoir s'accomplir. C'est quelque chose qui nous étonne. De la même manière, quand Dieu choisira Abraham, le patriarche, quand il lui donnera cette promesse de sa postérité, n'est-ce pas, sortira un peuple nombreux, sa postérité sera nombreuse comme le sable de la terre, comme les étoiles du ciel. Bien, c'est arrivé, et Dieu avait promis qu'il bénirait cette postérité, qu'il donnerait à Israël en possession la terre de Canaan. Et on sait que, hélas, l'histoire d'Israël, si elle a été marquée par des épisodes glorieux, a aussi été parfois jalonnée d'épisodes de moins glorieux, de désobéissance, parfois d'abomination. Et lorsque Jésus-Christ lui-même paraîtra au milieu d'Israël, et on se souvient de cette parole de Jean qui dira « La lumière brille dans les ténèbres, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » Les siens ne l'ont pas reçue. Là encore, on aurait pu dire « Le plan de Dieu est anéanti. » Le plan de Dieu ne s'accomplira pas par la faute de l'homme, mais même au travers de ces choses, finalement, c'est ce que Paul nous dit là dans l'Épître aux Romains, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Voilà, lorsque le Seigneur doit dire à Israël, le royaume de Dieu vous sera ôté, sera donné à une nation qui en rendra les fruits, bien, c'est par la désobéissance d'Israël, d'une certaine manière, la porte ouverte pour que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Pour que tous les hommes entendent cette bonne nouvelle, que Christ pardonne les péchés, qu'il est possible que l'on soit né dans le peuple juif ou à l'extérieur du peuple juif, de recevoir aujourd'hui encore le pardon de nos péchés, l'assurance de la vie éternelle, le don d'un cœur nouveau, une vie transformée. Et il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que dans le ciel, il y a une grande foule formée de tout peuple, de toute race, de toute langue, de toute nation, bénira pour l'éternité le Seigneur. Voilà. Eh bien, ça, c'était l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu avait formé ce plan dès le départ. Et malgré le mal accompli par les hommes, il s'est accompli. D'ailleurs, on se souvient que quand Dieu avait parlé à Abraham, il lui a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Dès le départ, c'est ce que Dieu voulait faire. Alors, voilà, il faut bien se souvenir de ça. Dans l'histoire du monde, dans nos circonstances environnantes, Dieu demeure souverain. Et même si on ne le comprend pas toujours, même si parfois c'est très difficile de le comprendre dans certaines circonstances, Dieu demeure celui qui accomplit sa volonté. Il demeure souverain. Et voilà, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est une parole véritable, entièrement digne d'être reçue, et il ne faut pas jamais la perdre de vue. Même si parfois on peut être pris dans la tempête, on est pris dans l'épreuve, voilà, on est parvenu au bout de ce que nous pouvons faire ou même comprendre, bien c'est la foi qui prend le relais. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu permets ces choses. Peut-être je me heurte d'ailleurs là aux mauvaises actions des hommes, à une opposition parce que je suis chrétien et je me sens faible, je ne sais pas comment réagir. Mais Seigneur, tu le permets. Tu le permets et si tu le permets, donne-moi, quoi qu'il en soit, de t'être fidèle. Et pour le reste, bien Seigneur, c'est toi. Me confie en toi, c'est toi qui vas accomplir ta volonté. Or je sais que ta volonté, elle est toujours bonne, agréable. Et parfaite. Non, dans l'histoire du monde, dans nos circonstances, Dieu demeure souverain. Et puis, il y a aussi un domaine dans lequel la providence de Dieu, le contrôle de Dieu s'exerce aussi, c'est l'histoire de l'Église, c'est le parcours de l'Église. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu, il la bâtit, il la protège. Le Seigneur va révéler que voilà, il bâtira son Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Puis Dieu travaille aussi son Église à l'affermir. Il y a partout, sur toute la surface de la terre, dans chaque Église locale, il y a une œuvre divine. C'est sa maison sur la terre. Là, le psalmiste disait « J'aime le séjour de ta maison parce que c'est là où ta gloire habite ». Et c'est vrai que sur la terre, le lieu où par excellence la gloire de Dieu se manifeste, c'est toujours l'Église. C'est toujours l'Église. Bon, pourtant, sur la terre, l'Église est imparfaite. L'Église est imparfaite. Pourquoi ? Mais à cause de nous. Parce qu'il y a encore en nous toutes sortes d'imperfections que nous aspirons à voir le Seigneur résorber, Et nous aspirons à ce que le Seigneur fasse une œuvre pour nous perfectionner, nous transformer encore. Le prédicateur anglais, Charles Spurgeon, disait un jour, « Ah ben, si vous trouvez l'Église parfaite, eh bien surtout, ne manquez pas de me le dire, parce que comme ça, j'irai. » Et il ajoutait, avec l'humour qui le caractérisait, « Mais vous savez, le jour où j'y serai, cette Église ne sera plus parfaite, précisément parce que j'y serai. » Et il y a encore tellement de choses en moi à changer. Et ça, c'est important pour nous de conserver en bien présent notre esprit le fait que, oui, si l'Église est la maison de Dieu, bien sûr, la terre, elle est encore imparfaite, l'Église, et les imperfections de l'Église, jamais ne doivent nous porter à nous en détacher, à nous en désolidariser, à cesser de prendre à cœur son bien-être et finalement à cesser de l'aimer. Non, nous aimons l'Église. C'est la maison de Dieu, c'est le peuple de Dieu. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, malgré ses imperfections, Dieu n'a jamais cessé d'en prendre soin. Il travaille à la perfectionner, à la rendre parfaite, à la sanctifier, par l'eau de la parole notamment. Tenez, dans le livre de Lévitique, il y a notamment tout ce chapitre qui nous parle des fêtes d'Israël, et voilà, nous en entendons parler le vendredi, il y a tous ces symboles extraordinaires dans ces sacrifices, les cérémonies que Israël était appelé à respecter, Et dans la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte, celle qui préfigure l'Église, il y a un détail curieux. Dieu dit, ce jour-là, eh bien, on m'offrira des sacrifices, et entre autres, on apportera des pains, et dans ces pains, il y aura du levain. Ça semble curieux, parce que très souvent, dans la parole de Dieu, le levain, c'est le symbole du mal, c'est le symbole du péché. Bien sûr, Dieu ne souhaite pas tolérer le péché, que nous le tolérions dans notre vie. D'ailleurs, d'autres textes nous disent qu'il nous convient de célébrer la fête, notre attachement à Jésus-Christ, avec des pains sans levain, sans le vieux levain de la méchanceté et de l'iniquité. Mais Dieu, par cette fête, montrait qu'il était conscient que dans l'Église subsisterait sur la terre, voilà, toujours une mesure d'imperfection. Et ça ne doit pas nous conduire, ça, n'est-ce pas, à accepter ce qui n'est pas bon. Mais ça doit nous porter à la patience, ça doit nous porter à aimer l'Église malgré les imperfections qui peuvent encore s'y trouver. Alors de la même manière, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une belle image. Dans le premier chapitre, vous savez que quand Jean est sur l'île de Patmos, il est prisonnier à cause de sa foi, et au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, eh bien, il est ravi, il est saisi en esprit, il a une vision glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, tel point que Jean lui-même, le disciple que Jésus aime, se tombe sur sa face, il est saisi, et il voit le Seigneur qui marche au milieu de chandeliers, sept chandeliers d'or qui représentent son Église. C'est la perfection de l'Église, telle que Dieu la voit, telle que Dieu la conçoit. C'est la perfection de l'Église parce que c'est l'œuvre de Dieu, et le Seigneur marche au milieu de ces sept chandeliers. Puis, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, les derniers chapitres même, Jean aura une vision de l'Église telle qu'elle sera lorsque toutes choses seront accomplies, toutes choses seront consommées. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle est parfaite. Elle est parfaite dans sa forme, elle est parfaite dans ses proportions, elle est parfaite dans les matériaux qui la composent, elle est précieuse. Ce sera les noces de l'agneau, c'est la consommation de toutes choses. Voilà, l'Église est parée comme une épouse à la rencontre du Maître. Et c'est à cela que Dieu nous prépare. Il ne faut pas l'oublier dans nos misères. Voilà, Dieu nous prépare à quelque chose de glorieux. Mais entre les deux, c'est vrai qu'il y a sur la terre une phase là, d'imperfection, d'épreuve parfois. C'est sur les lettres, par exemple, aux Églises. Dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Et là, il y a toutes sortes d'imperfections. Certaines églises souffraient là de tiédeur, elles se rendaient coupables de tiédeur. D'autres avaient toléré des choses que Dieu désapprouvait. D'autres étaient exposées à des épreuves redoutables. Ça n'a pas empêché Dieu de l'aimer. Il dit simplement que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça n'empêchera pas Dieu d'accomplir son plan parfait et de conduire ceux qui vaincront dans la foi, eh bien jusqu'à cet état de consommation de toute chose, de gloire, à laquelle il prépare les siens. Encore une fois, Dieu n'est jamais l'auteur du mal et ne saurait l'approuver en quelque chose que ce soit, mais Dieu est souverain et il accomplira parfaitement son plan, quelles que soient les circonstances présentes. Vous savez que la persécution même, lorsque l'Église y est confrontée, Dieu peut l'amener à concourir à la réalisation de son plan. Dans les premiers temps de l'Église, alors que cette mission lui avait été remise, voilà, vous serez mes témoins, Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, puis dans le monde entier. Voilà, ça a commencé à Jérusalem, puis pendant un premier temps, les chrétiens ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, puis il y a eu une violente persécution, au point que les chrétiens ont dû être dispersés, et à travers cette dispersion, il y a non seulement la Judée, mais la Samarie, avec Philippe, puis le monde entier a entendu l'évangile prêché par Paul, par d'autres disciples. Voilà, la persécution avait contribué en quelque sorte au plan de Dieu. C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. Les épreuves sur le chemin de la vie de l'Église, d'une certaine manière, contribuent au plan de Dieu. Donc ça ne nous pousse pas à la résignation, cela ne nous pousse pas à être fataliste, pas du tout. Paul, quand il se heurter à la dureté de cœur de ses auditeurs, continuer à prêcher l'Évangile, chercher de nouvelles ouvertures, mais il demeurait conscient que Dieu est souverain. Même la séduction, c'est-à-dire la tentative du diable de séduire parfois l'Église par de faux enseignements, quand le diable n'arrive pas à accomplir ses desseins par l'opposition, ou bien il cherche des moyens plus subtils, comme la séduction, pour y arriver. Mais même ça, vous voyez, Dieu, dans son infinie sagesse, et aussi parce que Dieu est Dieu, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Bien même ça peut contribuer, ça contribue à l'affermissement de ceux qui appartiennent à Dieu. Dans le livre du Deutéronome, vous trouverez là cette parole. Dieu disait à Israël, quand il s'élèvera là un faux prophète, quelqu'un qui prophétisera et qui annoncera d'autres dieux, et que même il y ait accomplissement là de ce qu'il dit, bien tu ne te laisseras pas troubler, tu ne le recevras pas. Dieu dit, c'est Dieu qui te met à l'épreuve. C'est Dieu qui te met à l'épreuve pour voir si ton cœur est attaché à Dieu. Et devant la séduction, devant les fausses doctrines, devant des doctrines qui se revendiquent parfois même de l'Évangile, et qui dévient par rapport à ce qui est écrit, bien c'est important de savoir faire la différence. Et Jean écrira, celui qui est de Dieu, bien il nous écoute, c'est-à-dire il demeure attaché à l'enseignement véritable, la parole telle qu'elle doit être enseignée. Et celui qui n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. C'est-à-dire, voilà, il se laissera emporter, il se laissera séduire. Alors, voilà, veillons à ce que, même devant ces séductions, nous soyons de ceux que Dieu garde, dans le cœur desquels, cette onction de Dieu, il nous a dit qu'elle nous enseigne toutes choses, qu'elle nous permet de séparer l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Voilà, veillons. Et disons, quand nous rencontrons, c'est possible, une telle tentation, Seigneur, tu permets ces choses, mais voilà, justement parce que tu les permets, moi je veux veiller, je ne veux pas être de ceux qui se laissent embarquer dans toutes ces choses. Non, je demeure fermement établi, voilà, paisiblement, dans ce qui est établi, dans ce qui est écrit. Et puis, un dernier domaine dans lequel la souveraineté de Dieu s'exerce, et ça nous fait du bien de le savoir, c'est nos vies, nos propres vies. Donc l'histoire du monde, le parcours de l'Église, et nos vies. Dieu exerce sa providence sur la vie de tous les hommes, en particulier. Là aussi, ça nous dépasse totalement. Une science si merveilleuse est au-dessus de notre portée, écrivait le psalmiste dans le psaume 139. Est-ce que Dieu peut connaître tout ce qui appartient à ma vie alors qu'il y a 6 milliards d'êtres humains sur la terre, plus? Oui. Oui, Dieu nous connaît parfaitement, il nous connaît personnellement. De la même manière que Dieu appellera Abraham, par son nom, que le maître s'étant arrêté sous cet arbre a appelé Zachée, par son nom. Dieu nous connaît par notre nom. Et sa providence, son contrôle providentiel s'exerce et s'étend sur chaque détail de notre vie, à tel point que Jésus dira que les cheveux même de notre tête sont tous comptés. C'est pourquoi il est écrit, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Et un exemple qui nous amène à prendre conscience de cette providence, eh bien c'est par exemple la vie de Joseph. C'est un homme sur lequel Dieu a veillé et dans la vie duquel Dieu est intervenu de manière remarquable. D'ailleurs, dès le départ, Joseph l'avait compris, puisque Dieu lui a donné, quand il était tout jeune encore, c'était un garçon qui était particulièrement aimé par son père, c'était le fils de Jacob, c'était le fils de Rachel, celle que Jacob aimait. Dieu lui a donné au moins 2 songes, qu'il a partagés. Alors peut-être y avait-il un peu d'orgueil, un peu une faute de jeunesse, je ne sais pas, ou bien tout simplement le désir de partager ces songes qui avaient marqué. Et ces songes, où il voyait toute sa famille se prosterner devant lui, les gerbes, puis les étoiles. Bien, ça a eu l'effet inverse sur ses frères, de telle sorte qu'il nous a dit que ses frères ne pouvaient plus, ne pouvait pas lui parler avec gentillesse. Peut-être la préférence manifeste que Jacob manifestait à son égard a irrité aussi dans le cœur de ses frères. Et, en tout cas, une animosité s'est fait jour, s'est accrue à tel point que, et on sait ce qui lui est arrivé à Joseph, alors qu'il est envoyé par son père pour voir comment se portent ses frères, il se jette sur lui, il le précipite au fond d'une citerne, et ils vont le vendre à cette caravane de Madianites, d'Ismaélites, et il va être emmené en Égypte. Mais Joseph aurait pu, là, se dire, voilà, ce que j'ai cru recevoir de Dieu, c'est anéanti, n'arrivera pas. Dieu m'abandonne. Il a été tenté en Égypte. Vous savez, le diable nous tentera même lorsque, et surtout lorsque nous nous trouvons dans certaines situations défavorables. Le diable n'aura aucune miséricorde pour les chrétiens, sous prétexte qu'ils traversent une période difficile. C'est parfois là qu'il faut veiller, justement. Mais Joseph aurait très bien pu dire, après tout, voilà, Dieu m'abandonne, Dieu n'est plus dans l'affaire, alors lorsque je suis tenté par cette femme, la femme de Potiphar, après tout, pourquoi pas, hein, puisque... Mais Joseph n'a jamais réagi ainsi. Certainement, ne comprenait-il pas ce qui lui était arrivé, il était dans un pays étranger, il était séparé de sa famille, séparé de la maison de son père, mais sans comprendre, il avait cette conviction que Dieu était bon, juste, et digne d'être craint et servi, quelles que soient les circonstances. Et à cause de cela, Joseph n'est pas tombé dans le piège, n'est pas tombé dans la tentation. Ça l'a emmené en prison, ça l'a conduit d'épreuve en épreuve. Et je ne sais pas à ce moment-là ce qui a pu passer par le cœur de Joseph, mais ce qui était certain, c'est qu'il n'avait aucun moyen de savoir comment allait évoluer sa vie par la suite. Il va faire pourtant l'expérience de cette parole, que oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu poursuit un but. Il y a ces versets curieux qui nous disent que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Que de lui viennent les maux et les biens. À travers même le mal qui est arrivé là dans la vie de Joseph, Dieu poursuivait son but et il va l'accomplir. Il va l'accomplir, on sait de quelle manière. La providence de Dieu se manifeste de manière remarquable, puisque à la suite de l'explication du songe qu'il donnera à l'échanson, il va être élevé, il va être le second du pharaon d'Égypte, puis il y aura ce songe, il y aura l'accomplissement, la famine, et les frères de Joseph viendront, puis son père Jacob, il le reverra, ses frères le reconnaîtront, il est élevé, il tremble, mais Joseph leur fait miséricorde, et il se voit allouer la meilleure partie du pays. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à la fin du livre de la Genèse, quand Jacob est mort, les frères de Joseph, qui ont encore la crainte, puisqu'ils se souviennent, malgré la miséricorde que leur frère a témoigné envers eux, ils ont quand même peur que le passé revienne à la surface. Il va leur dire, Joseph va les voir et leur dira, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et ça, c'est la providence divine qui, dans nos vies, permet que même le mal puisse concourir au bien. Changer en bien pour lui, parce que très certainement, même si ce n'est pas écrit, on se met à la place de Joseph, il y a très certainement eu des moments où il a été tenté d'en vouloir à ses frères pour tout ce qui lui est arrivé. Il a été quand même vendu, livré, sciemment. Voilà. Et dans son cœur, il y a eu besoin de l'aide de Dieu pour passer par-dessus cela, pour accorder le pardon. Ça a dû se produire, ça. Donc le mal, Dieu l'a changé en bien pour Joseph. À travers ce qui lui est arrivé, Dieu a modelé, façonner la personnalité, le cœur de Joseph, comme il le fait pour nous, à travers ses bénédictions, mais aussi à travers les difficultés, parfois même à travers l'opposition et la méchanceté que nous pouvons rencontrer, bien Dieu se sert de ces choses pour nous transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a changé le mal en bien pour ses frères, parce qu'ils s'étaient rendus coupables envers Joseph, et à travers tout ce qui leur est arrivé, bien, ils ont eu l'occasion de rentrer en eux-mêmes, finalement. Ils ont eu l'occasion de se repentir. C'est ça que Dieu cherchait, c'est ça que Dieu voulait. Hein, on se souvient quand ils attendent là dans l'antichambre, l'un d'eux se dit voilà, si nous avions écouté le cri, souvenons-nous du cri de notre frère. Et puis à travers ses frères, c'est tout Israël que Dieu va bénir. Hein, Israël qui remonte, Israël qui est logé dans le pays du Gozen, etc. Dieu a changé le mal en bien. Et enfin, c'est pour le monde que c'est ce mal qui est arrivé à Joseph a été changé en bien, puisque à travers Israël, on le sait, naîtra le Seigneur Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Voilà. Donc, le mal a été changé en bien. Pour nous, donc, ce matin, plusieurs pistes, plusieurs points de réflexion, ils sont là comme un encouragement de me referme dans la foi. Dans le monde, si nous rencontrons des difficultés, de l'opposition, Dieu demeure souverain, il contrôle toutes choses. Voilà. L'homme te célèbre dans sa fureur même quand tu te revêts de tout ton courroux. Dans l'Église, Dieu demeure souverain. Demeurons pleinement convaincus, persuadés que l'Église, eh bien, c'est la maison de Dieu. C'est sa maison, c'est son peuple, c'est là où il accomplit son œuvre, c'est là où il est présent. Et malgré tout ce qui peut se produire, même dans l'Église, eh bien, c'est le Seigneur qui demeure le chef suprême et le maître. Puis dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons nous aussi être exposés à toutes sortes d'aléas, mais Dieu demeure le même, et nous avons un accès auprès de lui. Voilà, même si nous ne comprenons pas, demeurons fermes dans la foi, répandant nos cœurs devant lui. Que le Seigneur nous bénisse richement, qu'il nous encourage pour se recueillir et ensemble invoquer le Seigneur.